Donc bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux soirées de l'EPS, de l'éducation physique et sportive, qui sont organisées par le SNEP FSU. On est à la quatrième soirée qui ce soir porte sur le thème de quel bac un EPS. Alors avec nous on a plusieurs intervenants, animateurs qu'on a invités ce soir, qui prendront part dans le débat et vous verrez, on a essayé de prévoir un peu une séquence de discussion et d'échanges autour à la fois de la question du bac, pour que vous ayez ce soir un certain nombre d'éléments clés pour décrypter le rapport que vient de nous rendre M. Mathieu et qu'il a rendu le 24 janvier, rapport qui devrait servir et qui va servir a priori de point d'appui à des propositions que va faire M. Blanquer donc en début février, le 14 février. Et dès maintenant, on commençait un certain nombre de rencontres avec les syndicats. Et par exemple, vendredi à midi, le SNEP est reçu. Donc Sébastien Molina qui est ici et moi-même, plus Benoît Hubert, on est reçu au ministère pour justement porter notre regard et sans doute un certain nombre de réflexions qui émergeront de cette soirée-là sur quel est le point de vue, comment on analyse les choses, quelles propositions on peut faire aussi sur ce bac-là et notamment sur les questions de l'éducation physique et sportive. Alors, ce soir, autour de la table, on a, je vais commencer par la droite, Teddy Makanko, donc qui est enseignant de PS. Je n'ai même pas précisé chaque fois, parce que j'ai oublié de te demander, j'ai marqué un Île-de-France un coup après, parce que chaque fois je faisais la confusion entre Créteil et Versailles.
Sur Versailles.
Sur Versailles, voilà, il me semblait bien, enseignant de PS. Benjamin Legal, qui est formateur au STAPS.
De Créteil,
je ne me suis pas trompé, et Christian Couturier à ma gauche, qui lui est secrétaire national du SNEP et en charge notamment des questions que nous on appelle éduc et du suivi des questions de lycée avec d'autres copains ici au niveau du SNEP. Alors Christian, on va commencer par toi autour de ce rapport Mathieu. La première question que j'ai envie de te poser, c'est de dire dans cette commission Mathieu, dont l'intitulé c'est centré autour du baccalauréat, mais on a très vite vu derrière, qui est en toile de fond, c'était finalement une réflexion sur le lycée qui était engagée. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments clés pour nous aider à lire qu'est-ce qui se joue autour de ce rapport-là et est-ce que tu peux nous aider aussi à y voir un peu plus clair sur finalement, derrière la commission Mathieu, quel regard il porte sur le lycée et la position du bac en tant que diplôme de fin de lycée au niveau de notre société?
Je crois que... D'abord, effectivement, la première réalité, c'est que il y avait une commande du président de travailler sur le bac, puisque c'était dans sa campagne des choses qu'il avait énoncées. Mais très vite, Mathieu notamment a dit qu'il voulait bien y travailler à condition que la question du lycée dans son ensemble soit posée, discutée et qu'il puisse y avoir des transformations notables. Ça fait plusieurs années que la question du lycée est sur la sellette. Rappelez-vous quand même que la dernière réforme, elle date de 2010, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très vieille. Hein, c'est Luc Châtel qui l'avait mise en place sous la houlette de Sarkozy. Donc, il n'y a pas eu de bilan de cette réforme. Il n'y a pas eu de discussion sur savoir ce qui s'était passé ou pas. Enfin bon, bref, on part à nouveau dans une réforme, on va dire, d'ampleur, sans qu'il y ait de réel bilan, de discussion sur ce que ça doit être, devenir, etc. Et finalement, quand on regarde rapidement ce qui est proposé, on s'aperçoit que ce qui est proposé sont des choses qu'on entend depuis très 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 longtemps, hein, un bac allégé et puis un lycée dit modulaire, qu'on appelle modulaire aujourd'hui. Alors je ne vais pas détailler ce que c'est ou ce que ça pourrait être à travers le rapport Mathieu, on pourra en discuter ensuite, mais je vais essayer de donner quelques éléments de lecture pour avoir les choses en tête. Après vous en ferez ce que vous voudrez dans la compréhension du phénomène, mais je voulais quand même les rappeler. Parce qu'on peut se poser la question de pourquoi maintenant et pourquoi si vite? Pourquoi faut-il si vite faire les choses? Pourquoi faut-il tout chambouler comme ça maintenant? Alors je crois que d'abord, la première chose qui est une des préoccupations du gouvernement dans son ensemble, c'est la question des économiques, on va dire, de faire des économies sur un moment de la scolarité qui est, quand on regarde les rapports qui sont faits par l'OCDE notamment, jugé beaucoup plus cher qu'à l'étranger, c'est-à-dire la période BAC, la période lycée plutôt est chère par rapport au reste. On coûte moins cher dans le primaire, moyennement cher dans le collège et plus cher dans le lycée et moins cher aussi dans l'enseignement supérieur. Donc tout ça, il y a autour de la réduction des déficits aujourd'hui, de cette politique-là qui est menée, quelque chose qui est très clair. Et d'ailleurs, dans le rapport Mathiot, c'est annoncé d'emblée, le bac est trop coûteux, etc., etc. Donc il y a une volonté de diminuer ce coût-là. Ça fait très longtemps que beaucoup de gens le demandent. Mais je dirais, ça c'est un petit peu la surface des choses, même si c'est quelque chose d'important. Et vous verrez que probablement, au bout du compte, on va se retrouver... je ne sais pas ce que dira Jean-Michel Blanquer la semaine prochaine, puisque c'est le 14 qui va rendre ses conclusions, mais je pense quand même qu'on ne se trompe pas trop, on ne s'avance pas trop en disant qu'il y aura des diminutions horaires globales sur ce qui est l'enseignement aujourd'hui du lycée. Bon. Mais je dirais que c'est la surface un peu des choses. Pour comprendre, il faut revenir aux années 2000. Qu'est-ce qu'il y a dans les années 2000? Il y a les dirigeants européens qui se réunissent et qui discutent sur l'avenir des systèmes éducatifs. Et quelles sont les préoccupations qui sont identifiées à ce moment-là? C'est, de rendre le système éducatif, je dirais, en adéquation avec le marché de l'emploi. C'est la grande préoccupation de ce moment-là. Et quels sont les chiffres qui sont donnés? Eh bien, les chiffres, c'est en gros, on a besoin aujourd'hui de 50% d'une classe d'âge qui soit diplômée de l'enseignement supérieur, donc niveau licence. C'est le repère qui est donné. Et puis, les 50 autres pourcents, ben, ma foi, qui doivent se destiner à des emplois qui seront moins qualifiés. Et à partir du moment où ça est énoncé, et c'est repris d'ailleurs par pas mal de gouvernements, il y a tout de suite des gens qui ont dit « Oui, mais s'il n'y a que 50% des gens qui vont au niveau licence, à quoi ça sert de payer ?» Aujourd'hui, le lycée accueille à environ 80% d'une classe d'âge. Bon. Donc pourquoi payer 80% si c'est pour que de toute façon, il n'y en ait que 50% qui aillent au niveau licence. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc cette préoccupation-là, elle traîne. Et aujourd'hui, on sait très bien que le modèle qu'on entend ici ou là, quand on discute dans les cabinets du ministère, etc., enfin des choses qui peuvent être... Voilà, on est sur ce modèle-là, c'est-à-dire en gros, ouais, on a 50% qu'il faut. Hein, et ben les autres, c'est l'alternance. C'est l'autre alternance avec le MEDEF qui dit, nous, on sait faire, hein, je cite pas exactement, mais vous pouvez aller le voir sur Internet, on a tout ça, c'est le MEDEF qui dit, ben nous, on sait faire ce que l'école ne sait pas faire. C'est-à-dire faire réussir tout un tas de gens, voilà. Donc, l'alternance, c'est donner la main à un moment donné à toute cette frange, aux entreprises, en gros, pour cette frange de la population. Alors, bien sûr, ce que je dis, c'est très tranché, très caricatural. Dans la réalité, ça se passe un petit peu plus finement et avec un délai. Mais dans le schéma global, c'est ça qu'il faut faire. Or, par rapport à la situation actuelle du système scolaire, il y a des obstacles à ça. Il y avait des obstacles à ça. Premier obstacle, la sélection à l'entrée à l'université. Sélection à l'entrée à l'université, dans les projets de campagne de Macron qui sont parus maintenant sur Internet, etc., il y avait une première chose qui était dite, mais qui s'est traduite par le plan Parcoursup, hein, qui s'appelle Parcoursup maintenant, mais qui en fait ne dit pas son nom. C'est-à-dire on imagine que le problème qui est posé, c'est celui de la sélection, et donc de dire il faut sélectionner, etc. Non. Le problème qui est posé, c'est de faire admettre à tout le monde que la sélection est quelque chose qui marche et dont on a besoin. Pourquoi je dis ça? Parce que si on est dans l'optique des 50%, une classe d'âge qui arrive, et qu'on est en plus dans la logique du bac moins 3, bac plus 3, vous avez entendu parler de ça, c'est-à-dire aujourd'hui, on essaye de réunir ce qu'on appelle l'école du socle, hein, c'est-à-dire primaire, collège, de réunir en une entité qui s'appelle l'école du socle, et ensuite bac moins 3, bac plus 3. Bac moins 3, bac plus 3, ça veut bien dire lycée d'un côté, supérieur de l'autre. Donc, si 50% doivent aller à l'enseignement au niveau licence, eh ben, c'est à l'entrée du lycée que la sélection doit se faire. C'est pas à l'entrée à l'université. L'entrée à l'université, c'est un triage. Les bons élèves, les bons étudiants dans les bonnes universités et les autres dans les moins bonnes. C'est ça qui se va s'opérer. Mais à terme, la logique, c'est de faire accepter l'idée de la sélection comme étant quelque chose qui est valide et qui est souhaitable. Et donc, pour pouvoir la transférer au niveau de l'entrée au lycée. Le bac, dans ce panorama-là, il faut d'abord le réformer parce qu'aujourd'hui, il représente encore une institution. Il faut donc en gommer tout un tas de choses. Mais dans quelques années, il est probable que le problème du bac ne se posera plus. Bac moins 3, bac plus 3, pourquoi mettre un diplôme à cet endroit-là alors qu'on sait que de toute façon, les gens qui rentreront, ils devront aller jusqu'au niveau licence. Donc la notion, cette idée du bac qui ouvre l'accès à l'université commence à ne plus se poser, d'autant plus que par ailleurs, l'université aura elle-même défini des attendus, donc ces fameux attendus là, qui sont maintenant dans Parcoursup et qui vont trier les jeunes. Bon. Donc en fait, moi je fais de la prospective syndicale, je fais de l'interprétation des signes aujourd'hui pour vous donner une grille de lecture. Ça ne veut pas dire que tout le monde la partage et que j'ai forcément raison, mais on a quand même un peu l'habitude de tout ça. Donc il fallait faire admettre cette sélection l'air de rien. Deux, déstructurer le lycée pour qu'il s'aligne sur le fonctionnement de l'université, d'où la question de la semestrialisation qui est proposée dans la commission Mathiot, d'où le fonctionnement par unité d'enseignement qui est proposé dans la commission Mathiot, etc., etc. Je peux multiplier un certain nombre d'exemples de ce type-là. Donc le bac sera pris dans un étau, c'est-à-dire entre ce lycée-là et puis l'université, on dira, mais vous voyez, ça ne sert plus à rien, puisque... Bon. Donc on est, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que je vous propose comme réflexion, dans cette logique-là, je termine juste en disant un point qui est d'ordre politique. Le problème, c'est comment faire passer cette pilule-là à tout le monde, à tous les gens qui ont des idées différentes, qui sont contre la sélection, etc. Eh bien, il y a une nouvelle façon de faire de la politique qui s'appelle, qu'on a déjà connue par le passé, mais qui s'accentue, qui s'appelle le pragmatisme. C'est-à-dire, vous voyez bien que la situation, elle est pourrie aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on regarde, que ce soit à l'université, que ce soit dans le lycée, on peut donner plein de raisons pour dire « bah ça marche pas, quoi ». Inégalité, tout ce que vous voulez, ça marche pas. Donc il faut changer. Et donc, prenons un peu n'importe quoi, tout ce qui vient, parce que de toute façon, l'existant ne marche pas. Et le pragmatisme, c'est de pouvoir dire à un moment donné, ben, de toute façon, là, ça ne marche pas. Donc, si, par exemple, je prends l'exemple de la sélection à l'entrée université, et je prends l'exemple des STAPS, puisque une grande majorité, on va dire, des enseignants STAPS aujourd'hui considèrent la question de la sélection comme étant quelque chose qui va permettre de régler le problème. À terme, hein, j'étais en contact beaucoup ces dernières semaines avec pas mal de collègues et les collègues globalement ils disent ben oui mais tu vois pas c'est le bordel aujourd'hui et bon si on a des élèves qui sont là et qui n'ont pas à être là, si ces élèves là ils viennent ou ils sont orientés ailleurs, ça sera mieux pour y compris pour ceux qui restent. Donc on est dans cette dynamique là et du coup on en vient à intérim. Et sur le bac, moi j'ai discuté aussi avec des collègues y compris dans mon établissement scolaire qui disent ben ouais mais tu vois bien le bac, ça c'est trop lourd, c'est trop ci, c'est trop ça. Donc finalement, bah, prenons quelque chose, on va le tester, et puis en pensant que voilà, ça sera pas pire qu'avant. Donc quand on est confronté à des réformes, faisons attention aux mesures immédiates. C'est pour ça que je ne suis pas rentré trop dans le détail de ce qui était proposé. Faisons attention aux mesures immédiates qui semblent régler un certain nombre de problèmes. Et pour les fans de la série X-Files, je dirais la vérité est ailleurs.
Alors, Christian, est-ce que si on en vient maintenant à se centrer un peu dans ce rapport-là, ce qui concerne l'éducation physique et sportive. Donc, la commission Mathiot avance un certain nombre de pistes, avec une histoire de majeur, de mineur, avec des troncs communs. Est-ce que tu pourrais globalement nous dire, dans le lycée de demain, qui serait donc mis en place progressivement, quel sort va être fait à l'éducation physique et sportive et à ces options, puisqu'on avait des options de complément et d'autres types d'options qui existaient en lycée?
Elle va avoir du mal à se tailler, je dirais, une part dans tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que nous, et puis on n'est pas les seuls, hein, on s'est bagarré sur plusieurs points quand on est intervenu auprès de la commission, et puis bon, dans les textes on s'est bagarré en disant les horaires EPS ils sont déjà pas très importants, donc interdiction d'y toucher. Donc ça a été à peu près acté dans le rapport Mathiot, puisque l'EPS est dans le tronc commun, mais il y a une incertitude sur le volume horaire global, puisque de toute façon le rapport fait très peu, ne parle pas des horaires disciplinaires, mais il y a une incertitude sur la fin du parcours, notamment l'année de terminale. C'est pas très clair dans la façon dont c'est formulé sur est-ce que, par exemple, le tronc commun il s'arrête définitivement à la fin du premier semestre ou bon. Donc il y a quelque chose là-dessus. La question des options, elle doit rentrer, elle était prévue de rentrer dans le dispositif global qui est, encore une fois, de modifier, parce que je l'ai pas dit, mais vous avez vu aussi que, enfin si vous avez quand même un peu lu le rapport ou si vous avez suivi un peu dans la presse, qu'il supprime la voie technologique et la voie générale pour en faire plus qu'une seule entité, mais qui sera où les parcours seraient différenciés selon les choix que feront les jeunes, avec un système qui a été recyclé des anciennes options vers ce qu'ils appellent aujourd'hui des majeures, des disciplines majeures qu'on peut choisir à un moment donné ou à un autre, et des disciplines dites mineures. Alors, nous, dans ce schéma-là, on s'est bagarré pour que le PS soit et dans les majeures et dans les mineures. Symboliquement, je dirais que au moins on peut faire attention à une chose, c'est que en collège, le discours nous a quand même un peu évacué des fondamentaux, même si on entend encore des choses qui se disent là-dessus, mais bon. Objectivement, quand Jean-Michel Blanquer a modifié le DNB en disant je réintroduis les fondamentaux dans le DNB, le PS n'est pas dans les fondamentaux. Donc on peut se dire rien. Et puis là, si on n'est qu'une mineure, évidemment, symboliquement, c'est pas terrible. Mais bon, au-delà du jeu de mots, disons que on estime que si ça se met en place, ça, encore une fois, on n'est pas pour cette réforme, mais bon, si ça se mettait en place, à minima, que l'EPS puisse être choisi comme une discipline majeure, c'est-à-dire ouvrant sur une véritable réussite au bac et éventuellement une poursuite d'études post-bac, notamment en STAPS, ça devrait être quelque chose qui serait logique. Donc le ministère, enfin Mathieu assure, l'EPS ne sera pas impacté par la réforme. Je pense que voilà, on a quelques doutes sur la réalité concrète de ces choses-là, notamment au niveau des volumes horaires et de la prise en compte de l'éducation physique.
D'accord. Alors peut-être je vais demander à nos deux autres invités de réagir un petit peu sur la place qui vous appréciez de l'éducation physique et sportive. Bon, je ne sais pas lequel des deux commence, si c'est Benjamin ou Teddy. Donc peut-être avant de commencer, puisque vous êtes tous les deux membres donc du CRIES, donc peut-être faire une petite présentation du CRIES, même si après, un peu comme nous ici d'ailleurs, Christian le dira aussi sur la deuxième partie, il y a des fois où on est membre d'organisation, mais aussi on développe des idées dans cet espace-là qui ne sont pas forcément portées par l'organisation, parce qu'on est un peu aussi dans un moment un peu exploratoire, et c'est un peu aussi l'intérêt de cette soirée, de dire, on va essayer d'explorer ensemble, mais finalement des pistes autour de l'éducation physique et sportive au bac, sans pour autant être dans globalement le débat démocratique total de nos organisations respectives. Voilà. Donc, Teddy.
Bonsoir à tous. Et merci pour ton part. Et puis, Christian, pour introduction. Alors, avant de commencer, effectivement, je veux souligner que nous sommes avec Benjamin, membre du CRIEPS, donc le collectif sur l'intervention en EPS. Collectif de réflexion sur l'intervention en EPS. Et c'est vrai que depuis maintenant 3 ans environ, on s'occupe de traiter des questions que l'on considère comme étant des questions vives de l'éducation. Et on travaille sur plusieurs chantiers. On a travaillé notamment sur l'évaluation pendant quelques temps. Et là, en l'occurrence, lorsque tu nous as sollicité, on s'est dit qu'il était important et intéressant pour la discipline de pouvoir répondre à ton invitation, à ta sollicitation, et de pouvoir proposer éventuellement des pistes de réflexion sur la réforme du bac. Alors avec Benjamin, aujourd'hui, on interviendra en notre nom propre, pour la simple et bonne raison que, par souci de temps, on n'a pas eu l'occasion de véritablement organiser une consultation collective avec les autres membres du collectif, et donc on prendra la parole en notre nom propre. Pour revenir plus précisément sur ce qui a pu être dit et sur la réforme du bac, nous, il nous semblait important déjà avec Benjamin de préciser un point, à savoir que de notre point de vue, cette réforme du bac qui en réalité est une réforme de la structuration des enseignements au lycée, en arrière-plan, il y a cette idée-là de réformer à l'échelle structurelle l'organisation du lycée dans son ensemble. Elle ne peut se faire que si elle s'inscrit aussi dans une optique de continuité avec le collège. Et par rapport à ça, moi, il y a quelque chose qui me gêne, et d'ailleurs Christian, tu en parlais, tu as dit tout à l'heure, il y a l'école du socle, et d'un autre côté, Bac-3, Bac+3. Comme si finalement l'enseignement secondaire était clivé et divisé en deux sections ou deux pans distincts, et de notre point de vue c'est impossible. Sur le terrain on le sait bien, il est important qu'on puisse travailler de façon plus convergente, que l'on puisse trouver des synergies et des dynamiques de travail qui permettent d'alimenter le travail qui est produit au lycée, le travail qui est produit au collège de façon rétrospective, et c'est pas possible si jamais il n'y a pas un réel souci de continuité et de prolongement à partir de ce qu'est actuellement la réforme du collège. Donc ça, c'est le premier point. Second point, puisque tu nous interroges sur ce que peut être le bac EPS, ou en tout cas, quelle peut être la place de l'EPS au sein du baccalauréat. Pour avoir lu le rapport Mathiot et donc les différents éléments qui se dégagent des consultations, on s'inscrit là, en l'occurrence, pleinement dans la ligne de pensée du SNEP, à savoir que l'EPS doit faire partie du tronc commun, ça c'est une évidence. On pense que c'est indispensable parce que cela permet à bon nombre de lycéens de pouvoir cultiver une forme de pratique et de pouvoir s'inscrire véritablement dans une culture des activités physiques et sportives qui est nécessaire pour qu'ils puissent suivre pleinement leurs études et se développer à ce niveau-là. En revanche, il y a peut-être un aspect dont on pourra rediscuter, mais qui nous fait un peu peur. Pour le résumer, je pourrais dire ça. La réforme dans sa philosophie, que ça soit par exemple un lycée des possibles et donc un lycée modulaire qui permette aux élèves de pouvoir s'inscrire dans un parcours de formation qui soit davantage structuré, davantage individualisé, ça nous semble être une bonne chose, et de ce point de vue là je pense qu'il y a pas mal de choses à construire. Par contre, on est un peu inquiet concernant les aspects fonctionnels. On a encore un peu de mal à voir comment est-ce que l'EPS va pouvoir pleinement s'emparer des questions qui lui sont dévolues, et comment est-ce que les élèves et les enseignants vont pouvoir réussir à s'y retrouver à partir de ce cadre qui peut être plus souple, mais qui en même temps comporte certaines limites, en tout cas à l'heure actuelle, telle que l'on envisage les choses.
Tu veux compléter, continuer un petit peu?
T'as une question?
Non, vas-y.
En continuité avec ce qui est dit, effectivement, en termes de faisabilité, tout à l'heure tu parlais de la semestrialisation, qui est un point important de la réforme. Alors, pour nous en tout cas, le bac, je pense qu'il a à être réformé. Il allait être réformé, comme on le disait, en fonction du lycée, en continuité avec le collège. Il y a des points du lycée qu'on a apportés dans la réforme du lycée qui n'ont pas été évalués et qui nous semblent des points d'appui importants qui permettent d'évoluer. Il ne faut pas faire du lycée la même chose que le collège, et il ne faut pas faire de lycée une université. Il y a vraiment un moment, 3 ans, où on peut opérer ce glissement entre une formation au collège et une formation à l'université. Et cette semestrialisation, dans cette dimension-là, elle peut jouer un rôle intéressant. Par contre, il va falloir se questionner de comment on réorganise à la fois l'EPS dans le tronc commun et dans les options, les mineurs qu'on propose. Et là, il va falloir se poser la question si, par exemple, on conserve des 3 cycles, comme on a l'habitude de faire. Mais le problème, là, pour nous, c'est qu'on ne respecterait pas la logique de la semestrialisation. Donc là, si une réforme amène à évoluer vers 2 semestres, moi je serais plutôt dans cette dimension de ne pas conserver l'organisation qu'on a actuellement. Par contre, si on passe sur une structure semestre, on pourrait entrevoir, puisque c'est 18 semaines d'enseignement, des formations équilibrées, 9 semaines, 9 semaines, et pour nous c'est un minimum, parce que 9 semaines sur une activité, pour obtenir des transformations et un développement suffisamment significatif pour développer les compétences des élèves, c'est incontournable. Et ce modèle-là, en termes de faisabilité, il peut potentiellement tourner, mais on sait que sur les installations sportives et sur l'organisation, ça va poser des problèmes de terrain aux collègues. On peut entrevoir de mettre en avant une activité, deux sur l'année, de manière plus prépondérante, en travaillant par exemple sur 12 semaines. Dans ces cas-là, on aurait des manières, à l'image de ce qui est proposé au collège, des activités de découverte et des activités d'approfondissement. Faire un choix dans l'équipe en fonction effectivement des contraintes et puis des spécificités locales, d'activités sur lesquelles on passe au moins 12 semaines et qui laisseraient d'autres activités complémentaires de 6 semaines dans lesquelles effectivement les enjeux de transformation seraient moins importants. Mais en tout cas, tous ces choix-là, ils vont être importants à faire puisque si on cherche à évaluer au baccalauréat, eh bien, il va falloir que les exigences qu'on se donne, elles vont dépendre directement de la structure et de l'organisation qu'on aura fait vivre à nos élèves pendant ces 3 années. Voilà, il y a une organisation au semestre, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas encore totalement entre semestre 1, semestre 2 et la répartition des volumes horaires, et tout ça, bah, ça va impacter à la fois sur les services d'ailleurs des collègues, sur le volume, et puis sur l'épreuve qu'on pourra demander aux élèves. Donc, tout, voilà, si on réfléchit au bac, en tout cas, il faut pas regarder l'épreuve en tant que telle, il faut regarder le processus de formation qui aboutit à cette épreuve. Et cette épreuve, c'est un moment où on va valider des acquis qu'on a construits tout au long des 3 années, mais aussi un moment qui permet aussi de se projeter dans ce que les élèves vont devoir vivre après. Et c'est pour ça que j'ai peut-être moins peur qu'ils ne disparaissent dans ce que tu disais tout à l'heure, parce que il peut constituer un moment saillant, emblématique, mais qui permet de trouver un compromis entre l'avant et puis la passerelle de ce que l'élève va vivre plus tard.
Alors Christian, peut-être pour continuer un peu dans ce qu'ils ont commencé à évoquer sur la transition, mais alors on voit bien que très vite on est centré sur les cas de PS au lycée. Est-ce que tu pourrais, un peu au titre du groupe EDUC, du STEP, on a été un peu dans la même configuration, à savoir qu'on a commencé à élaborer des propositions, mais que ce soir, on voyait bien que nos propositions ne pouvaient pas être validées par les instances démocratiques, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, on va proposer des pistes là, dans cette soirée un peu de débat et de réflexion, pour commencer à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'on peut porter. Et c'est vrai que finalement, on va être dans un travail pratique très rapide, puisque nous, d'ici vendredi, il va falloir qu'on fasse la synthèse et qu'on porte un point de vue plus partagé par le SNEP. Donc, Christian, est-ce que tu peux nous dire, au niveau du SNEP, quelles seraient un peu les pistes moi, je te pose la question sur le PS en lycée. Est-ce que tu as des pistes sur l'organisation, sur les apprentissages? Quel PS en lycée? Et en conséquence, quelle forme d'évaluation? Et donc, quel bac EPS au lycée?
La logique de la réponse à la question demanderait de passer par un bilan. Déjà de l'existant. Et vous avez remarqué que, quelles que soient les réformes et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, jamais on nous dit voilà le bilan de ce qui s'est passé, voilà ce que produit l'éducation physique aujourd'hui, et voilà comment on veut la réorienter, pourquoi, etc. Jamais. Donc c'est un véritable problème. Bon, nous on a des informations via les nombreuses rencontres et le réseau évidemment syndical qui est extrêmement étendu, puisque quand même pour un syndicat d'avoir à peu près un tiers de syndiqués aujourd'hui dans le panorama c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, et puis surtout qu'on a une politique de rencontre des collègues assez importante, puisqu'on rencontre chaque année 3-4 000 collègues dans des stages où on discute de toutes ces questions-là. Donc, moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est de problématiser ça. C'est-à-dire de se...
Excuse-moi de te couper, par rapport au bilan, il y a quand même chaque année un rapport qui est sorti sur le bilan des évaluations bac de l'éducation.
C'est un rapport qui n'est pas sorti chaque année, contrairement à ce que c'était. Alors ces dernières années, on l'a eu effectivement, mais il ne donne pas les clés de compréhension, il ne donne pas l'état de la réalité. Une note aujourd'hui, on pourra en discuter tout à l'heure dans l'échange, mais on sait très bien que la note au bac aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne comme élément de compréhension du niveau auquel est un élève. Donc on a des difficultés de ce point de vue-là, mais on a des difficultés parce qu'à mon sens, il n'y a pas eu la volonté de faire un bilan partagé, c'est-à-dire de se mettre à un moment donné en disant, voilà, on convoque toutes les personnes et groupes qui ont à un moment donné à dire des choses sur l'éducation physique et on va essayer de se construire une représentation plus proche de la réalité pour effectivement dire, voilà. Alors, Moi, dans les problèmes à résoudre, il me semble qu'il y en a au moins 4-5. Le premier, je crois que c'est ce que tu viens de développer un peu, Benjamin, c'est la question du temps d'apprentissage. Et donc, derrière, le temps consacré à une activité, un cycle, et bon, cette logique-là, avec tout ce que ça implique. Pourquoi ? Ben parce que tout simplement, on sait très bien qu'à un moment donné, pour atteindre un certain niveau, pour pouvoir obtenir ce fameux sentiment de compétence que tout le monde appelle de ses voeux, eh bien, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps parce que les transformations ne s'opèrent pas si vite, et d'autant plus qu'au moment du lycée, il y a une chute très très importante du nombre de pratiquants extérieurs, je veux dire la quantité de pratiquants chute à l'entrée au lycée, parce que souvent il y a une pression parce qu'il va y avoir des études, etc. Donc il n'y a plus de pratiques beaucoup extérieures, et puis on se retrouve dans ce schéma avec finalement deux petites heures qui sont pas deux heures d'ailleurs, hein, puisque la moyenne nationale de temps de pratique effective, c'est 1h10, je crois, à l'échelle de la France, quand on compte les installations, le déplacement et compagnie. En moyenne, ça fait à peu près ça. Dans les bahuts comme le mien, où il y a toutes les installations sur place, on est sur entre 1h30 et 1h40 de cours effectifs. Hein, donc on a cette question du temps qui est déterminante pour nous, et aujourd'hui le découpage de l'éducation physique ne permet pas justement d'avancer dans ce temps-là. Je vois par exemple dans mon établissement, on a des cycles effectivement on a trois cycles et donc des cycles d'environ 10 semaines, hein, 9-10 semaines. Mais en fait, quand on regarde par rapport à la période de vacances, très souvent on a une séquence, les vacances, et puis derrière deux séances derrière. Les gamins ont fait 15 jours, des fois 3 semaines sans pratique. Revenir sur ça pose des problèmes. Donc de toute façon, c'est pas satisfaisant. Donc il faut réfléchir à ça avec tout ce que ça implique. Tu as donné des pistes, je crois, qui sont intéressantes et sur lesquelles il faut vraiment réfléchir. Donc un, réduction du nombre de cycles, à voir comment on réfléchit à ça. Aujourd'hui, le minimum qui se passe, c'est environ 9 cycles. Hein. Dans le meilleur des cas, parce qu'il y a beaucoup de secondes qui sont sur 4 cycles, donc ça fait déjà un cycle de plus. Bon, 9. Et c'est en moyenne, dans le meilleur des cas, c'est 6 activités différentes sur le cursus. Hein. On fait 3 activités en seconde, on en fait 3 différentes en première pour que les élèves aient vu au moins, et puis ils choisissent dans le meilleur des cas en lycée. Bon, c'est 6 activités différentes en 1h30 par semaine pendant les 9 semaines. Donc on a ce problème là. Donc si on réduit, comment on fait? Si on donne, alors l'autre piste que tu as donnée, je pense que nous aussi on y réfléchit, c'est l'idée d'une activité qui serait à un coefficient supérieur, on va dire plus approfondi que d'autres.
Majeur
ou une. En tout cas, voilà. Bon, donner un poids d'apprentissage, donc un temps plus important à une activité. Donc tout ça, je pense qu'il faut vraiment le réfléchir, parce qu'effectivement, sur le plan concret et pratique, ça pose des problèmes. Ça pose plein de problèmes qu'il faut résoudre à l'intérieur d'une équipe qui, des fois, ne fonctionne absolument pas sur des raisons pédagogiques. Quand on se répartit les cycles, toi t'es dedans, toi t'es dehors, on s'équilibre dedans-dehors, mais pas du tout en termes de réflexion sur les apprentissages, etc. Donc voilà, il faut modifier un petit peu tout ce panorama. La deuxième problématique qui est liée d'une certaine manière, c'est le choix des activités. Est-ce que, alors qu'on prône un lycée où l'individu, l'élève, doit avoir de plus en plus le choix, la main sur ce qu'il va choisir comme type d'orientation, sur les disciplines, etc., bizarrement, aujourd'hui, en lycée, en EPS en tout cas, à part dans les très gros bahuts, on en arrive à finalement très peu de choix. Dans un établissement moyen comme le mien, les élèves, ils ont très peu de choix, parce que les menus, il y a les contraintes qui pèsent, qui empêchent ce choix-là. Quand on croise les contraintes des programmes, deux cycles dans la CP5, etc., et qu'on ajoute les contraintes du bac, donc trois activités dans trois CP, etc. On s'aperçoit, et plus les installations, etc. On s'aperçoit que voilà, on est sur pratiquement des non-choix, et donc ça pose un problème. Moi, j'ai vu la transformation qui s'opérait à une époque. Beaucoup d'ici ne l'ont pas vécu puisque vous êtes pour la plupart jeunes. Moi, j'ai vécu dans les années 90 deux activités en terminale. Alors, il n'y avait pas de semestrialisation, mais on faisait deux activités. Donc là, une demi-année sur une activité, ça commence au niveau du temps. Bon, et les élèves, ils choisissaient. Et il n'y avait pas la contrainte des CP. Donc, on pouvait choisir badminton et volleyball. C'était pas conçu comme étant quelque chose d'hallucinant. Aujourd'hui, c'est
les table rugby.
Voilà, c'était des choses qu'on pouvait faire. Donc les élèves, déjà, ils sont sur le plan motivationnel, on va dire, plus orientés, puisque ils ont choisi un peu plus leurs activités. Donc ça règle aussi pas mal de problèmes. Bon, bref. Donc cette question du choix, à mon avis, on s'en sortira pas aujourd'hui si on fait pas sauter deux idées fondamentales qui ont présidé à pas mal de choses. C'est l'idée que l'EPS, c'est une multitude. Il ne faut surtout pas se spécialiser, il ne faut surtout pas approfondir, parce qu'il faut avoir un vernis un petit peu partout. C'est l'EPS polyvalente, machin, etc., qui a beaucoup défrayé la chronique dans les années 80-90. Donc il faut sortir de ce schéma-là. Et le deuxième schéma, c'est celui des contraintes liées à ce qu'on appelle les compétences propres encore en lycée et au champ d'apprentissage en collège, qui sont, on pourra là aussi en discuter et approfondir, une ineptie sur pas mal de choses. Je ne vais pas le démontrer ici parce que c'est pas l'objectif, mais enfin, sur lesquelles on ne peut pas se baser et sur lesquelles il n'y a aucun appui, je dirais, ni théorique ni professionnel. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point sur lequel il faut qu'on réfléchisse, c'est la question, je vais le dire globalement, la question des référentiels, ou du référentiel ou des référentiels. L'éducation physique, on a une particularité qui n'existe pas ailleurs, c'est qu'on a deux référentiels qui se percutent. On a un référentiel qu'on peut qualifier de référentiel de formation, qui sont censés être les programmes, et un référentiel, des référentiels qui sont des référentiels d'évaluation, de certification en l'occurrence. Et ces deux-là se cumulent. Dans les systèmes scolaires, y compris à l'étranger, enfin en général, il y a un système qui domine. C'est-à-dire on a soit un référentiel de formation qui est bien développé, et les enseignants, en tant que concepteurs, doivent trouver le système d'évaluation qui est le plus adapté pour faire émerger les apprentis, pour qualifier les apprentissages, ou bien, dans d'autres systèmes anglo-saxons par exemple, on a un système de référentiel d'évaluation qui pilote le reste, c'est-à-dire que c'est des sociétés privées, en l'occurrence en Angleterre, etc., qui font des référentiels de formation, d'évaluation très contraignants. Donc les enseignants l'adoptent, et à partir de là, ils en déduisent les éléments de formation. Mais d'avoir les deux, c'est une double contrainte qui aujourd'hui est un sacré problème. En tout cas, sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Et bien sûr, derrière, il y a la question des contenus. Sur quoi portent ces référentiels? On peut prendre n'importe quelle activité aujourd'hui et puis la décortiquer là, du point de vue des attendus, et puis de voir. Et puis il y a le troisième problème, c'est qui les fait. Je parlais tout à l'heure de la commission nationale d'évaluation. Moi, sur plus généralement aujourd'hui, je dis qu'il y a un problème en éducation physique qui s'est accentué, c'est qu'il y a une mainmise d'un certain nombre de personnes de l'institution et autres qui ont à la fois la responsabilité et qui pensent qu'ils ont tous les atouts en main pour penser à la place de tout le monde. Et je pense que on ne sortira pas on n'en sortira pas si on ne bouge pas ce créneau-là. C'est-à-dire aujourd'hui, dans ces débats-là, il y a des débats dans lesquels la profession ne doit pouvoir intervenir. Je ne dis pas qu'elle a forcément le dernier mot, etc., mais ce sont des débats professionnels. Comment les enseignants aujourd'hui triturent les référentiels d'évaluation, c'était vrai au collège, mais c'est vrai évidemment au lycée, pour les mettre dans des conditions qui leur paraissent plus acceptables, c'est un débat professionnel important. S'ils le font, s'ils le font, ça, c'est pas parce qu'ils veulent les trucs, les font chier, etc. C'est parce qu'ils voient bien qu'il y a un décalage entre ce qu'on leur propose et la réalité. Et donc, ils tordent ça. Ils tordent ça à leur façon pour le faire rentrer et très souvent pour faire en sorte qu'ils fassent un travail qui soit de meilleure qualité que l'application stricte des textes. Donc, il y a un débat professionnel. Et ce débat professionnel, il faut qu'on l'ait tous ensemble. Et malheureusement.
Je veux dire que le CNEP n'a pas été associé dans les nouveaux, parce que les référentiels, ils viennent de changer là.
Non, pas du tout, non.
Le CNEP n'a pas été associé.
Non, il y a une rupture dans la relation, je dirais, de l'institution au CNEP il y a quelques années. C'est vrai que pendant des années, on était consulté, on était pas forcément suivi, mais au moins on était consulté, il y avait des débats autour de ces questions-là. Et que depuis, on va dire, depuis les années 2010, 2008-2010, c'est terminé. Donc, bon, on n'est plus du tout même associé à la lecture avant la parution, enfin bon bref. Donc je pense que ça c'est un élément déterminant de l'évolution disciplinaire, hein, ou de la non-évolution disciplinaire. Le quatrième point, c'est bien sûr la question de la certification en elle-même, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'à un moment donné le service public, donc le lycée en l'occurrence, valide pour dire bah oui, l'enseignement qu'on a fait, eh ben il a produit ça, et toi élève, t'as suivi le truc, ton niveau c'est celui-là, et je te garantis que ton niveau c'est celui-là. C'est ça que doit faire normalement un diplôme. Doit garantir le travail qui a été fourni par l'institution, et en même temps dire aux élèves, à tout le monde, ben voilà. Voilà, aujourd'hui, tu as passé tout ce temps-là, voilà ce que tu as acquis, et voilà ce que tu as. Bon. Donc, ça doit être cette chose-là. Je ne suis pas convaincu que ça soit toujours la préoccupation qu'il y a eu derrière la question des référentiels. Par exemple, ça a été dit et discuté, hein, ça fait partie de controverses ou de débats, mais quand on dit que, par exemple, les référentiels, comme ça a été le cas au moment de leur parution initiale dans les années 2000, ont été conçus pour transformer les pratiques. Eh ben, on donne à la certification une fonction différente de celle, c'est pourquoi elle doit être faite. Et donc, on part sur d'autres débats. À partir de quoi modifier les pratiques, pourquoi faire, etc. Donc tout ça aurait dû faire partie du show. Ça c'est le quatrième point. Le dernier point, mais il concerne pas le PS pour tout le monde, mais il concerne la question des options. C'est est-ce que on offre aujourd'hui, ça rejoint le débat sur Mathieu et autres, est-ce qu'on offre aujourd'hui en éducation physique une voie de réussite identifiée en EPS autour, on va dire, des APSA, des acquisitions culturelles dans le champ sportif et artistique. Est-ce que oui ou non, compte tenu de ce qu'est la société aujourd'hui, du poids de ces activités-là dans le monde d'aujourd'hui, etc., on accepte cette idée que, eh bien, l'EPS n'est pas une discipline mineure, mais que c'est une discipline majeure dans la société d'aujourd'hui, et qu'on peut, à travers ça, offrir une voie de réussite importante, c'est-à-dire que quelqu'un, comme ça se fait en mathématiques, en physique, en SVT ou ailleurs, ou dans les arts, dire oui, moi, cette voie-là, je veux la suivre parce que c'est là-dessus que je veux faire ma vie, mon métier, etc. Donc, cette question-là, aujourd'hui, qui a été tranchée de façon toujours pas très bonne, je dirais, par le passé, pour des raisons de moyens, parce que les gens y croient pas ou qui sont pas d'accord avec cette question-là, il faut qu'elle soit reprise, parce que nous, en tout cas, on milite pour que ça puisse être une véritable voie de réussite, au même titre que d'autres secteurs.
Alors, est-ce que vous avez, vous, des pistes, une réaction
Alors, il est revenu, plusieurs fois sur cette question du choix, effectivement, dans la réforme, c'est quelque chose de très important, hein, dans cette logique modulaire. Alors, on ne va pas détailler ces éléments-là, mais je pense qu'il faut regarder la réforme qui est en cours et le choix qui est donné entre la faisabilité et ce qui sera réellement mis en place sur le terrain. Je soulève quelques doutes, en tout cas, sur une réelle possibilité aux élèves de choisir à la fois les majeurs, les mineurs, dans leur parcours et de le construire. Ça, c'est en termes de faisabilité. Par contre, si on revient sur l'EPS, je pense que les équipes maintenant ont quand même
fait un travail un peu plus qualitatif hein, sur la cohérence des parcours. On le voit hein, au collège, il y a vraiment des programmations qui commencent pas seulement à prendre les contraintes matérielles, organisationnelles ou structurelles, il y a volonté quand même d'articuler. Donc ça, je trouve que les collègues, ils ont fait un travail plus approfondi. Mais par contre, on a une EPS de la diversité qui pose ses limites, et tu le soulevais tout à l'heure, avec un temps qui dilue, avec un phénomène où on passe d'une à l'autre et en prenant pas le temps. Et ça, je pense qu'il faut prendre position, et nous on a tendance à prendre position en disant qu'il faut approfondir une activité, se donner réellement les moyens de se transformer et arrêter de zapper sous prétexte d'élargir la culture. On élargit la culture en se l'appropriant, et là on se donne pas le temps de s'approprier ces éléments là Donc concrètement, si on prend, et il va falloir se poser la question de quand on évalue, est-ce qu'on évalue en première ou en terminale ? Et ça va être une question importante. Alors, j'ai pas peur de... On pourrait imaginer d'évaluer en anticipé, hein, ce que prévoient aussi les pistes de la réforme, sans pour autant que l'EPS disparaisse en terminale. Moi, faire une EPS en terminale sans qu'il y ait forcément d'évaluation, pourquoi pas, en tout cas y réfléchir. Mais aussi, on peut voir d'autres formes de fonctionnement, avec une évaluation en première, par exemple, sur deux APSA qui seraient retenus. Mais si je pose la problématique du choix, je ne vais pas demander à mes élèves, par exemple, de choisir laquelle note il va retenir sans savoir et sans connaître l'activité. Il faut qu'il soit confronté, il faut qu'il ait expérimenté, il faut qu'il ait progressé pour faire le choix. Donc, à ce moment-là du parcours de formation, si je dois l'évaluer sur deux APSA, eh bien... à la limite je retiens la meilleure des deux notes pour valoriser et pour qu'ils prennent des risques et puis qu'ils cherchent à aller au-delà de ses capacités et puis qu'on aille voilà, vraiment dans cette logique de développement. Dans ces cas-là, en terminale, on pourrait reposer une évaluation complémentaire à la première, voire c'est envisageable, sur deux APSA et introduire ici par exemple la moyenne des deux notes pour obliger les élèves à... voilà, ça peut être des pistes en tout cas envisageables dans le concret du terme. Après, tu posais la question des référentiels, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui sera forcément à mettre. Entre un référentiel où tu parlais de référentiel d'évaluation, où on a des situations de référence. C'est, en fait, d'ailleurs, le texte, c'est plutôt des situations de référence, hein, plutôt que... voilà, on a une normalisation, mais avec des avantages. Parce que là on peut engager les élèves sur un cadre qui est commun, on peut et on va éviter aussi d'avoir ce que j'ai peur aussi dans la réforme, cette mise en concurrence d'établissements, parce que si on n'a pas cette normalisation qui est là, et ben chaque établissement ou chaque équipe va proposer avec un degré d'exigence différent, et il va y avoir de fait, même si des exigences sont bien dans la société, on va se réapproprier ces types d'évaluation, on va remettre en cause le travail des collègues, on va dire qu'ici ils sont trop exigeants et les notes sont trop basses, donc on va pas avoir accès à notre orientation future. Enfin, là je vois pas comment on peut en tout cas éviter de se poser cette question là-dessus.
Ouais, tout à fait. Nous on est quand même assez d'accord avec l'idée que la modularité des enseignements tels qu'elle est proposée au lycée, elle risque de mettre les établissements en concurrence les uns vis-à-vis des autres et quelque part de faire le jeu de la carte scolaire. Et on le sait, il y a un certain nombre d'études sociologiques qui le montrent, ce phénomène de carte scolaire, il est néfaste pour le climat d'établissement, il est néfaste pour le climat d'apprentissage et il met en péril le devenir d'un certain nombre d'élèves. Après, pour revenir sur la question des référentiels, c'est quelque chose qui nous paraît assez sensible en réalité. Tu l'as dit, Christian, les référentiels s'ancrent obligatoirement sur des modèles normatifs qui permettent d'avoir un cadre commun qui est défini pour l'ensemble des établissements. Et encore une fois, dans une logique, dans un souci d'articulation avec ce que sont aujourd'hui les enseignements au collège, est-ce qu'on peut s'autoriser à entériner, par exemple, des situations de référence, des compétences attendues au lycée, pour retrouver au collège un cadre institutionnel sous-prescriptif, une absence d'injonction institutionnelle Est-ce que quelque part il n'y a pas un décalage ou des effets de biais qui pourraient se créer dans le continuum de formation et dans ce souci de continuité éducative? À un autre niveau, le référentiel, il faut qu'il soit pensé à l'échelle nationale pour qu'il puisse donner lieu à un cadre commun. Et en même temps, tu le disais, on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui redéfinissent, qui réagencent les référentiels nationaux à partir de contraintes locales. Et l'une des craintes que l'on peut avoir au regard des ambitions qui sont allouées à cette réforme du bac, c'est quelque part ce bac qui soit aussi local ou localisé. En tout cas, qu'il y ait une labellisation locale très forte, et cette labellisation locale, elle met en péril quand même la légitimité du baccalauréat en tant que tel. Donc ça, c'est quelque chose qui pose question. De la même manière, est-ce qu'on doit retenir ou non une liste d'activités? Alors là, la question peut se poser, et elle peut se poser à différents niveaux. Nous, avec Benjamin, lorsqu'on a commencé à regarder un petit peu les travaux qui avaient été menés sur le bac, et notamment le rapport Mathieu, on a le sentiment, par exemple, que on risque ou on pourrait risquer d'avoir affaire à une EPS à deux vitesses. Le PS du tronc commun d'un côté, et puis le PS mineur ou mineur optionnel de l'autre. Et cette EPS à deux vitesses, est-ce qu'elle doit s'ancrer sur les mêmes objets d'enseignement? Est-ce qu'elle doit s'ancrer sur les mêmes activités? A priori, elle n'aurait pas les mêmes enjeux. Et donc, est-ce qu'on pourrait retrouver une EPS avec une double finalité? Une finalité pour le PS du tronc commun qui serait plutôt de créer les conditions du développement d'un capital corporel, pardon, qui pourrait être accessible à tous, alors que pour le PS en mineur, on est plutôt vers une logique de spécialisation en direction des métiers du sport, et ça répondrait à d'autres démarches et d'autres logiques de formation. Donc là encore, je pense qu'il y a des choses à creuser autour des APSA, autour des objets d'enseignement et autour de la manière dont on conçoit le PS.
Et ce que t'es dit, ça reviendra effectivement à se poser la question de l'évaluation, parce que là on discute du tronc commun, mais l'évaluation en option, enfin en mineur et en mineur optionnel, va forcément interroger cette formation au... Alors l'AEPS a soulevé des idées qui étaient intéressantes, d'ailleurs on peut discuter hein, sur ces éléments-là, mais ça veut dire que si on engage les élèves dans un parcours de ce type-là, pour se former au métier du sport, il faut qu'ils vivent ce qu'est un parcours sup, d'ailleurs dans l'avenir, avec des cours bah, peut-être davantage théoriques, et là il va falloir que cette question-là bah, interroge, parce qu'on ne prépare pas par exemple à entrer en STAPS ou sur un DUST ou sur un brevet d'État sans que les élèves prennent conscience, vivent en acte que bah, y a des cours de physio, d'anatomie, qu'on arrête de penser que les STAPS bah, c'est on va le prolongement et la continuité d'une EPS pratique. Et où la plupart des étudiants tombent des nues quand effectivement les exigences en termes de formation, les yeux qui sont donnés dans les universités sont très poussés et ils ne sont pas prêts à vivre ce parcours de formation parce que on ne leur a pas donné à voir ou à entrevoir ce que serait ces parcours-là. Et si on le met en place, ben, si on évalue ces parcours, ben, l'évaluation elle sortira peut-être du domaine pratique et ça.
Bon, tu nous fais couper la tâche parce que je suis venu au nouveau débat sur le sup. Donc, Christian, on va leur dire deux mots et après, j'aimerais quand même. Donc, tu vas. On ne fait pas un débat, c'est pas quel sup, quelle sélection, etc. Donc, après, j'aimerais vous poser à vous là, deux questions un peu sur l'organisation de l'EPS au lycée. Donc, une réaction par rapport à ça.
Oui,
et ensuite, je vous relance un peu.
C'était pour que. Parce que ce débat-là, il va venir, en tout cas, si la logique là, qui est développée. Se maintient avec l'option à cette étape, je dis bien à cette étape parce que il faut qu'on discute, il faut qu'on avance, etc. Mais on n'est pas porteur, nous, d'une idée, d'une option qui serait un mini STAPS. C'est-à-dire, on n'est pas sur l'idée de. D'abord, pour une raison toute simple, c'est que la discipline STAPS, c'est une discipline universitaire qui, en plus, est une discipline éclatée dans le sens où il n'y a pas un cœur identifiable hein, entre les filières management, APA, EDUCMOT, ergonomie et compagnie, là, tout ça. Bon. Donc, il n'y a pas. Et deuxièmement, parce que justement, la problématique pourrait amener à dire, ben, on fait. Quelque chose qui soit préparatoire à. Or, nous, à cette étape-là, quand quelqu'un prend une option lourde mathématique, C'est pas dit qu'il va devenir mathématicien. Il peut, ça peut, mais c'est pas obligatoire. Actuellement, dans les options, les options qui existent, il y a que 30% il y en a que 30% qui se destinent en gros au STAPS, c'est-à-dire qui, bon, donc ça fait qu'un tiers. Ça veut dire que les autres, ils veulent faire une option. Ils veulent approfondir dans le champ des APS, mais ils veulent pas forcément en faire leur métier. Et donc, je pense que pour nous, l'idée de se dire, on sélectionne très tôt, enfin on sélectionne, on met les gens dans un côté tubulaire pour aller vers les STAPS à partir de l'option, c'est pas notre conception actuelle. Par contre, la question de aujourd'hui, la réflexion autour de qu'est-ce qu'une pratique éclairé d'une APS approfondie peut donner, en termes évidemment forcément de pratique en soi, hein, c'est-à-dire d'arriver à un niveau d'expertise plus avancé, mais aussi avec tout ce que ça comporte, parce que vous avez quand même tout le monde, les profs de PS ici présents, remarqué qu'on n'arrive pas à un niveau d'expertise sans réfléchir, sans se poser des questions sur la façon dont on apprend, sans ce qu'on appelle aujourd'hui d'un mot la technologie des APS, hein, qu'est-ce que ça peut produire dans le cadre du lycée? Ça nous paraît plus intéressant d'y réfléchir que de dire c'est des ministres, on va se mettre dans les clous des STAPS, quoi. Et donc avec le risque que tu dis, c'est-à-dire bah, finalement quand on regarde les STAPS, les pratiques physiques pas tellement important, finalement faisons un peu de sociaux, un peu de philo, un peu de machin, et puis ça sera bon pour que, pour l'instant c'est pas notre orientation, on va dire.
Merci à tous les trois pour vos interventions et votre apport dans ce débat.